Voilà, bonjour à chacun. En ce dimanche de la fête des Pères, j'aimerais parler de Dieu le Père ce matin. Dieu notre Père céleste, si nous sommes son enfant, par la foi en Jésus-Christ. Si la notion... Si la notion de la paternité de Dieu est très présente dans le Nouveau Testament, elle n'est cependant pas absente de l'Ancien Testament où nous la trouvons pour décrire la relation de Dieu avec son peuple, avec Israël. Yahvé, le Dieu d'Israël, est le Père d'Israël dans l'Ancien Testament. Et Israël est son fils. Il existe une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne l'usage du nom, du mot Père, du nom Père pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'image du Père et celle du Fils décrivent la relation de Dieu avec une nation, avec un peuple, son peuple. Et dans le Nouveau Testament, ces deux images du Père et du Fils servent en particulier à parler de la dimension personnelle de notre relation à Dieu. La dimension communautaire n'est pas exclue dans le Nouveau Testament, mais il y a cette spécificité de la dimension personnelle. Le mot « Père », quand il est attaché à Dieu dans la Bible, peut avoir essentiellement trois sens. Je mentionnerai les deux premiers, et puis je vais développer le troisième. Le premier est déjà à l'écran. C'est la première utilisation du mot « Père » qui sert donc à désigner Dieu comme le Père de tout homme, comme le Créateur de tout homme et de toute femme. Il est le Père de toute vie, le Créateur de toute chose. Et en ce sens, Dieu est le Créateur donc de chaque homme et de chaque femme qui vit, qui a vécu et qui vivra sur cette terre. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 8, verset 5, « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient. » Un seul Dieu, le Père, de qui tout vient. Il est le Créateur, et c'est donc le premier sens de ce premier usage du mot « Père » attribué à Dieu dans la Bible. Notons simplement que cette paternité de Dieu n'implique pas de relation personnelle à cause de la chute. S'il n'y avait pas eu la chute, il y aurait une relation personnelle avec Dieu qui découlerait du fait que Dieu est le Créateur de tout homme, mais la chute est venue mettre un obstacle à cela. Le deuxième usage que je ne ferai que mentionner, c'est que Dieu est le Père de Jésus-Christ. C'est une autre utilisation donc du mot Père pour Dieu dans la Bible. Il est le Père, le Dieu le Père, la première personne de la Trinité est le Père donc de la deuxième personne de la Trinité, son Fils. Le Père et le Fils, Dieu le Père et Dieu le Fils. Il faut cependant préciser ici que Dieu n'est pas le Père de Jésus comme il est le Père de tous les hommes. Il n'est pas le Père de Jésus dans le sens de Créateur. La Bible affirme que le Fils est éternel. Le Fils n'est pas créé par le Père. Dieu a simplement choisi de nous faire comprendre au travers de cette image du Père et du Fils la relation d'amour, la relation d'affection, la relation de confiance, d'unité, d'harmonie entre ces deux personnes de la Trinité, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. La troisième utilisation du mot « Père » pour Dieu est celle qui va nous intéresser ce matin. Elle sert à désigner la relation de Dieu avec les disciples de son Fils, avec ses enfants spirituels. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous venons de le chanter. Pour le chrétien, avoir Dieu pour Père céleste implique que Dieu est la source de la vie spirituelle, de sa vie spirituelle. Il en est l'auteur, il en est le créateur. Cette vie spirituelle qui est en moi, si je suis par la foi en Jésus-Christ, vient de Dieu le Père. Il en est l'auteur. Mais ce n'est pas tout. La paternité de Dieu implique aussi un certain type de relation que Dieu désire avoir avec chacun de ses enfants. Et ce matin, donc, j'aimerais que nous prenions quelques instants pour réfléchir à cela, pour creuser un peu le sens de la paternité de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. Que faut-il comprendre par Dieu comme notre Père céleste ? Qu'est-ce que nous disons quand nous disons qu'il est notre Père ? Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu, sur sa personne, sur ses œuvres? Et puis, qu'est-ce que nous apprenons sur nous et sur le genre de relation que Dieu veut avoir avec ses enfants? La paternité de Dieu nous parle premièrement de la relation d'autorité et de soumission que Dieu veut avoir avec ses enfants. Autorité et soumission, voilà des mots qui ne sont pas très populaires, en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelques décennies en arrière, ça aurait dérangé et choqué personne. Aujourd'hui, c'est des mots qui dérangent, et parfois même qui peuvent déranger parmi les chrétiens. Notons tout d'abord que pour Jésus aussi, la paternité de Dieu implique, sous-entend, l'autorité du Père sur le Fils. Ainsi, les évangiles répètent à plusieurs reprises que le Fils n'agit pas de lui-même. Il ne fait pas sa volonté. Il n'agit pas de sa propre volonté, mais il fait la volonté de son Père. Jean chapitre 6, versets 37 et 38, c'est Jésus qui parle, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils est venu faire la volonté de son Père. Les relations au sein de la Trinité, pour ce qui concerne le salut, peuvent se résumer ainsi. Le Père planifie le salut et envoie le Fils. Le Fils obéit au Père et vient donner sa vie en sacrifice. Et puis le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint qui applique au cœur des croyants les mérites du sacrifice de Jésus. Voilà dans les grandes lignes comment on peut articuler les relations dans la Trinité, de la Trinité, pour la question du salut. La Bible nous dit que Jésus, le Fils, est venu donner sa vie par amour et qu'il est venu le faire en obéissance à son Père, à la volonté de son Père. Et tout comme Jésus était soumis à son Père, à sa volonté, nous qui sommes ses enfants, si nous sommes ses enfants, nous devons nous aussi nous soumettre à la volonté de notre Père céleste. Dieu en Jésus ne veut pas seulement être notre sauveur, celui qui nous sauve, celui qui nous délivre de nos ténèbres, celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Il veut être notre sauveur, mais il veut aussi être notre Seigneur, celui qui nous guide jour après jour, par sa parole et par son esprit. Sauveur et Seigneur, ce n'est pas l'un ou l'autre au choix, non. C'est l'un et l'autre. Si je prends l'un, je dois prendre l'autre. S'il est mon sauveur, il faut qu'il soit mon Seigneur. Nous parlons assez facilement de l'amitié de Dieu, de l'amour de Dieu, et nous devons toujours veiller à ce que cette vision de Dieu soit équilibrée par celle de sa seigneurie, par celle de sa souveraineté, par celle de son autorité que nous chantons régulièrement par ailleurs. Avoir Dieu pour Père céleste implique cette autorité de Dieu sur ma vie. Et par conséquent, mon obéissance, ma soumission à Dieu et à sa volonté. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est d'ordre moral, tout ce que Dieu me demande de faire clairement dans sa parole, tout comme ce que Dieu me demande clairement de ne pas faire. La paternité de Dieu nous parle donc de son autorité sur nos vies, et à l'exemple du Fils, je dois apprendre à faire la volonté de mon Père céleste si je suis devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Une relation d'autorité et de soumission est aussi une relation d'amour. La paternité de Dieu nous parle deuxièmement de son amour pour ses enfants. Elle nous dit la relation d'amour que Dieu désire avoir avec chacun de ses enfants. 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez l'amour de Dieu le Père qui fait de nous ses enfants. Dieu nous aime comme un Père. Et cet amour de Père, c'est l'amour qu'il a de toute éternité pour son Fils. C'est cet amour qu'il a de toute éternité pour chacun de ses enfants. Nos pères terrestres peuvent faillir, ils peuvent décevoir, ils peuvent blesser. Nous qui sommes pères, nous savons combien il est facile de ne pas y arriver. Mais notre Père céleste, lui, ne nous déçoit jamais. Son amour est toujours parfait. Parfois, nous n'arrivons pas à le comprendre. Parfois, le chemin sur lequel nous marchons est difficile. Alors, l'équation suivante est facile à faire entre, d'un côté, le chemin difficile et de l'autre, un manque d'amour de Dieu. Parce que si Dieu était vraiment bon, comme il devrait l'être, puisqu'il est mon Père céleste, alors il ne permettrait certainement pas cela. Parfois aussi, et c'est une erreur contre laquelle nous devons être particulièrement vigilants, nous pouvons consciemment ou inconsciemment rabaisser l'amour de Dieu au niveau de l'amour imparfait d'un père charnel et finir par ne comprendre l'amour de Dieu le Père, que comme le reflet de l'amour paternel que nous avons connu. J'y reviendrai dans un instant. N'oublions jamais que l'amour de Dieu le Père est parfait. N'oublions jamais qu'il est immensément plus grand que le plus grand des amours paternels charnels. N'oublions jamais que les images que nous utilisons pour dire Dieu, pour parler de Dieu, pour parler de son amour, les analogies que la Bible emploie pour dire Dieu, renvoient toujours à des réalités qui sont affectées par le péché. Et nous devons faire la part des choses. Aucune relation père-fils parmi les hommes n'est parfaite. Et aucun père humain n'est parfait. Mais en Dieu, nous avons le modèle parfait du Père, qui plus est notre Père céleste. L'image que nous nous faisons de Dieu est une image, est une affaire complexe, dans laquelle interviennent beaucoup de facteurs et d'expériences qui vont participer à la construction d'une image, soit positive, soit négative. Je parle de l'image que nous avons de Dieu. Et parfois, comprendre l'amour paternel de Dieu peut devenir une chose difficile, voire très difficile, en particulier quand nos références familiales sont mauvaises, quand notre Père ne nous a pas aimés, quand notre Père a été absent de notre vie, quand notre Père a peut-être abusé de nous par la violence ou par d'autres manières. Bref, quand nous avons une image négative de notre Père, de notre propre Père. Dany Amo, dans son petit livre, c'est très simple, mais je vous le recommande, « Image de Dieu, voir Dieu tel qu'il est », donne un tableau très instructif avec quatre types de pères humains auxquels peuvent être associées quatre images, quatre compréhensions de Dieu. Il y a tout d'abord le père impulsif. C'est le père qui n'a pas de règles claires. Il a des humeurs imprévisibles. Il est accommodant aujourd'hui, mais il sera peut-être intraitable demain. À ce père humain correspond parfois une compréhension de l'amour de Dieu sans sa justice. Ça, c'est le père impulsif. Il y a ensuite le père fouettard, celui qui punit facilement. Sa sévérité effraie et ses exigences sont redoutables. Il est difficile d'établir une relation personnelle avec lui. À ce père humain correspond parfois une compréhension de la justice de Dieu sans son amour. Et puis, il y a aussi le papa gâteau. Il est cool, faible et laxiste sur les bords, des bords qui sont assez larges. Il pardonne et oublie facilement. À ce père humain correspond parfois une compréhension de l'amour de Dieu sans sa sainteté. Et puis, quatrième type de père, le père légaliste, celui qui brandit la loi pour sanctionner immédiatement et de manière intransigeante. À ce père humain correspond parfois une compréhension de la sainteté de Dieu sans l'amour de Dieu. Oui, l'image que nous nous faisons de Dieu ou l'absence d'image que nous avons de Dieu est une affaire complexe dans laquelle interviennent beaucoup de facteurs et entre autres les modèles familiaux que nous avons chacun d'entre nous. Sommes-nous conscients, nous les pères, de l'influence que peut avoir notre comportement sur la compréhension de Dieu qu'ont et qu'auront nos enfants? Combien il est important que nous veillions avec l'aide de Dieu à offrir à nos enfants une bonne image de Père. Je le redis, ce n'est pas facile. En tout cas, nous pouvons en faire un sujet de prière prioritaire parce que l'enjeu est important. Et puis surtout, par-dessus tout, n'oublions pas qu'il y a la grâce de Dieu. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il y a la grâce de Dieu qui peut pallier à tous nos manquements de père, de mère aussi, bien sûr. Et si pour une raison ou une autre, mon image du père, de père pour Dieu, a été faussée par l'image que j'ai de mon propre père, il est possible par cette même grâce de Dieu de changer petit à petit de perspective. J'aimerais maintenant, pour finir ce point sur la paternité de Dieu qui dit son amour et la relation d'amour que Dieu veut avoir avec ses enfants, relever deux aspects essentiels de cet amour paternel de Dieu. Le premier, c'est celui de l'amour sacrificiel du Père. C'est vrai aussi pour le Fils, bien sûr. Chaque parent, je crois, père et mère, sait ce que veut dire faire des sacrifices pour son enfant, pour ses enfants, pour qu'il ne manque de rien, ou en tout cas qu'il ne manque pas de l'essentiel, pour qu'ils aient le maximum d'atouts pour réussir dans la vie. Nos sacrifices, pourtant, sont bien imparfaits. Et ils sont parfois même égoïstes. Mais Dieu, à l'image d'Abraham dans l'Ancien Testament, est un Père qui offre le meilleur, un Père qui n'a pas hésité à donner en sacrifice son propre Fils pour nous attirer à lui. Et le plus extraordinaire, c'est que cet amour de Dieu le Père qui se sacrifie nous est offert gratuitement. Dieu non seulement n'a pas compté la dépense, mais en plus il ne demande rien en retour. Son amour offert gratuitement doit simplement être reçu par la foi. Permettez-moi une petite histoire que je vais lire. Alors elle est un peu datée. Pour les plus anciens, on va retrouver des francs dans cette histoire. Alors, j'aurais pu transformer tout ça en euros, mais je vous la livre dans son jus. Elle s'appelle « La facture du garçonnet ». Le petit Jean-Claude voulait se faire un peu d'argent de poche pour acheter des fantaisies à la fête foraine. Il crut avoir une idée géniale et au moment du repas de midi, sa maman trouva une facture dans son assiette. « Maman doit à Jean-Claude 2 points pour être allé 4 fois acheter du pain, 0,50 x 4, 2 francs. Pour être descendu 6 fois à la cave chercher du fioul, 0,50 x 6, 3 francs. Pour avoir balayé 4 fois la cuisine, 0,50 x 4, 2 francs. Pour avoir tondu 3 fois la pelouse, 1 x 3, 3 francs. Total, 10 francs. La maman lut et sans sourciller, plia le petit billet qu'elle glissa dans la poche de son tablier, sans rien dire. Au moment du repas du soir, Jean-Claude trouva une enveloppe dans son assiette. Il l'ouvrit en hâte et trouva les 10 francs sollicités, accompagné d'une petite note. Jean-Claude doit à sa maman 2 points. Pour 9 ans de nourriture, rien. Pour 9 ans de soins constants, rien. Pour toutes les nuits de veille, rien. Pour plus de 9 ans d'amour, rien. Total, rien. Au fur et à mesure de la lecture, les yeux de Jean-Claude s'étaient remplis de larmes. Il put cependant la terminer. Il s'élança en pleurant vers sa maman, la serrant dans ses bras. Il s'écria pêle-mêle « Merci, pardon, maman. Je ne veux pas les 10 francs, pardon, pardon. » Réalisant que la leçon avait été comprise, la mère le rassura gentiment. « Je t'aime, mon chéri. » Et les 10 francs, je te les offre, garde-les. Il peut nous arriver de penser ainsi, de penser et de dire, Seigneur, tu me dois. Seigneur, j'ai droit à ça. Et quand il nous arrive de penser ainsi, c'est que nous oublions, nous avons oublié de quel amour le Père nous avait aimés. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est un amour parfait, un amour gratuit qui a donné le meilleur de lui-même, Jésus son Fils. Alors, même que nous n'en avions rien à faire de lui et de son amour. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Un amour qui se donne, mais aussi un amour qui discipline. L'amour du Père est non seulement un amour qui se donne, un amour qui donne le meilleur, mais c'est aussi un amour qui veut le meilleur pour ses enfants. Nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 2, verset 12, « Car le Seigneur avertit celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il agrée. » L'amour qui accepte tout, l'amour qui donne tout, c'est plus un manque d'amour que de l'amour véritable, non? Si un parent trouvait son petit enfant en train de jouer avec de l'eau de Javel ou en train de jouer avec des allumettes et qu'il ne lui disait rien, est-ce que ce serait un bon parent? Non, bien sûr, et il va certainement, dans un premier temps, mettre l'enfant en garde contre les dangers de la javel, du feu, etc., et lui interdire d'y toucher. Bien évidemment, mettre ça hors de sa portée. Mais si par la suite, en prenant une chaise, l'enfant avait réussi à récupérer tout ça, et s'il recommençait, toujours par amour, toujours pour son bien, parce qu'il y a véritablement danger, le parent va devoir intervenir à nouveau et peut-être un petit peu plus fermement. Il devra corriger l'enfant. Alors, je ne rentre pas dans la nature de la correction, ce n'est pas mon propos. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant soit repris. Et ce qui est surtout important, c'est que cette réprimande soit toujours motivée par l'amour et par l'amour seul. Et parce que Dieu nous aime, c'est ainsi qu'il agit avec nous. Il arrive qu'il nous avertisse, il arrive qu'il nous reprenne, il arrive qu'il nous réprimande et parfois même il arrive qu'il nous corrige. Tout ça parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. L'Épître aux Hébreux reprend le texte des Proverbes que j'ai lu. Et il le développe dans ce texte du chapitre 12, et je lis les versets 5 à 11. Un texte très fort. « Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. » On pourrait mettre « comme à des filles » aussi. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger et nous le respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Notre Père nous corrigeait pour un temps limité selon ses idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Que nous apprend ce passage sur l'amour paternel de Dieu? Je vais vraiment aller à l'essentiel. Il nous apprend, par exemple, que Dieu, comme Père, ne corrige que ceux qu'il aime. que Dieu comme Père ne châtie que ceux qu'il reconnaît pour ses fils et pour ses filles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la correction de Dieu pour ses enfants est un signe, est une preuve de son amour, mais surtout de la filialité que j'ai avec Dieu le Père. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute que si je suis dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, dit-il, alors cela veut dire que je suis un fils illégitime si Dieu ne me corrige pas. Autrement dit, cela veut dire que je ne suis pas son enfant. Comprendre l'amour paternel de Dieu, c'est comprendre que pour notre bien, Dieu, notre Père céleste, doit parfois nous reprendre, doit parfois nous éduquer, nous corriger, nous ramener dans le droit chemin. Et si cela nous arrive, ne prenons pas à la légère, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ah, c'était pas là. Ne prenons pas à la légère la correction du Seigneur. Ne nous décourageons pas lorsqu'il nous reprend, parce que c'est pour notre bien que Dieu le Père nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Il est temps de terminer, j'aimerais juste terminer avec quelques mots sur ce troisième aspect de la paternité de Dieu, la relation d'intimité que Dieu désire avec ses enfants et qui est suggérée par cette image du Père et qui est même induite par notre relation, par Jésus-Christ. De la même manière que le Christ, que Jésus était en communion avec son Père, Dieu le Père, notre Père céleste, veut être en communion, en relation intime avec chacun de ses enfants. Qui dit Père dit enfant et dit aussi famille. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et la paternité de Dieu nous parle de la réalité de l'adoption. Si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas par naissance naturelle, ce n'est pas parce que nous avons droit d'être ses enfants, c'est en vertu de l'adoption que nous avons reçue en Jésus-Christ. Notre filialité à Dieu notre Père n'est pas naturelle, elle est adoptive. Et l'adoption, c'est cet aspect du salut où Dieu fait de quelqu'un qui par nature n'était pas son enfant, Dieu fait de lui son fils ou sa fille son enfant. Et cela se passe à la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Le Saint-Esprit qui est d'ailleurs appelé l'Esprit d'adoption, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains. Et cet Esprit d'adoption qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 15 à 17, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. La relation d'intimité est soulignée dans notre texte par la manière dont nous pouvons maintenant appeler Dieu. Nous pouvons l'appeler Père. Nous pouvons le dire Abba, Père. Et c'est Jésus qui introduit cette manière de s'adresser à Dieu. Marc 14, verset 36, Jésus est dans le jardin de Gethsémané et il dit « Abba Père, tout est possible. Pour toi, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Abba, ce n'est pas du français, c'est une expression araméenne qui était utilisé par les jeunes enfants pour s'adresser à leur père et qu'on pourrait traduire par « papa ». Mais dans l'usage courant, dans l'usage familier, qui correspond plutôt à « cher père ». Alors, il y a des débats de spécialistes là-dessus, entre « papa », « cher père », peu importe. Ce qui est important, c'est que nous pouvons maintenant appeler Dieu différemment. Il est notre Père. Ce qui est important, c'est de comprendre la nouvelle relation que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons nous adresser à Dieu comme un enfant s'adresse à son Père. C'est d'ailleurs l'enseignement premier de la prière du Notre Père. Notre Père. Oui, notre Père. Et comment est-ce qu'un enfant s'adresse à son père si la relation est bien évidemment normale, elle ne l'est malheureusement pas toujours, mais si elle est normale, l'enfant vient dans une totale confiance à son père. L'enfant vient dans une totale dépendance. L'enfant vient dans une totale liberté. Il n'y a pas de crainte chez le petit enfant qui s'approche de son père. Nous avons reçu un esprit de liberté, un esprit d'adoption et non pas un esprit de servitude. Ne nous privons pas de cette communion avec Dieu notre Père, de cette intimité. Quelqu'un a dit que Dieu cherche des hommes qui se conduisent comme des enfants envers lui, qui dépendent de lui. Dieu cherche des hommes, des femmes, qui se conduisent comme des enfants envers lui, qui dépendent de lui. Mais ce n'est pas pour que nous restions des enfants. Ce que Dieu désire, c'est nous amener à la maturité en Jésus-Christ. Alors venons à notre Père céleste aussi souvent que nécessaire. Venons et soumettons-nous à son autorité parentale, paternelle. Venons et recevons son amour paternel. C'est un amour gratuit, un amour qui parfois nous reprend, mais toujours pour notre bien. Venons et jouissons de l'intimité que Dieu nous offre. Venons et vivons pleinement comme des fils et des filles de notre Père céleste. Amen.